La banalisation des armes à feu, on en a parlé il y a une vingtaine de minutes. Le phénomène s'observe depuis quelques années, notamment à travers la très forte augmentation des ventes aux particuliers. Un phénomène qui peut paraître assez paradoxal dans cette Europe où l'on parle de plus en plus de contrôler les armes à feu, voire même de désarmer les civils pour endiguer la menace terroriste. Un projet de durcissement est actuellement en discussion à Bruxelles. La Suisse, en tant que membre de l'espace Schengen, serait concernée, elle aussi. Pour en parler, tout de suite, le plaisir d'accueillir Bernard Wicht. Bonjour.
Bonjour.
Expert en stratégie, privatdocent à l'Université de Lausanne. Vous travaillez en étroite collaboration avec l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire à Paris. Vous êtes notamment l'auteur d'un livre intitulé « Europe, Mad Max, demain, retour à la défense citoyenne ». C'est paru aux éditions Favre en 2014. Bernard Wicht, comment est-ce que vous expliquez, ou ce paradoxe, d'un côté l'Europe qui veut désarmer les citoyens, y compris les Suisses, en résumé, et puis de l'autre, des achats d'armes qui n'arrêtent pas d'augmenter?
Alors, la réaction étatique de vouloir désarmer les citoyens, c'est une réaction malheureusement bien connue lorsqu'un État se sent menacé. Dans le cas de l'Union européenne, c'est un groupe d'États, et malheureusement, c'est une réaction qui est tout à fait malsaine, parce que qu'est-ce qu'elle prouve, c'est que au fond, l'État n'a pas confiance dans ses propres citoyens. Il se détache de plus en plus de sa base, et finalement, il fait le jeu de ceux qui veulent détruire la société, c'est-à-dire les groupes terroristes. Et tous les affiliés. Donc, mais c'est malheureusement une réaction que l'on retrouve à de nombreuses périodes. Et je dirais, les politologues s'en sont même inquiétés. On a une étude qui s'intitule « Comment les démocraties perdent les conflits de basse intensité ». Eh bien, précisément en adoptant ce type de mesures qui cassent la confiance dans un conflit tel que nous sommes en train de vivre en Europe, qu'on peut qualifier de guerre civile moléculaire, selon la formule de Enzensberger, l'essayiste allemand. Eh bien, au contraire, il faut jouer la carte de la confiance du citoyen, il faut s'appuyer sur le corps social et pas le suspecter comme malheureusement c'est le cas. Alors, de leur côté, les citoyens, je dirais qu'ils font ce que faisaient d'une certaine manière les citoyens d'Europe de l'Est à l'époque du bloc soviétique, ils votent avec les pieds, c'est-à-dire qu'ils utilisent le droit qu'ils ont d'acquérir des armes parce qu'ils sentent bien que la situation est en train de se dégrader. Donc, je pense pas qu'il faut parler d'une banalisation de l'achat d'armes, mais au contraire d'une prise de conscience que la situation devient grave et que l'Europe vit un tournant sans doute très important dans son évolution.
Pas de banalisation, dites-vous, mais un engouement très fort qui se lit dans les statistiques des ventes d'armes. Cet engouement, il découle directement de cet état de guerre moléculaire dont vous parlez.
Absolument, parce que je pense que si on avait dans les cas de Breivik en Norvège, du Bataclan à Paris, de Nice, si dans ces cas-là on avait eu ne serait-ce qu'une ou deux personnes armées, eh bien je pense qu'on aurait évité beaucoup de victimes et on aurait évité bien des massacres. N'oublions pas que de faire confiance systématiquement aux forces spéciales de la police, ça implique des délais d'intervention considérables. Dans le cas de Breivik, il a fallu plus d'une heure pour que les forces spéciales de la police norvégienne intervienne, et pendant ce temps-là, on sait que malheureusement il massacrait des gens. Il faut garder la confiance dans le citoyen. Dans le cas de Breivik, on a un exemple tout à fait flagrant. Il y avait un touriste allemand qui était en vacances sur une petite île juste à côté d'où s'est déroulé le drame. Il a pris son petit bateau de pêche, il a foncé, il a sauvé plein de gens. Donc il ne faut pas s'imaginer que le citoyen est irresponsable et qu'on va transformer la société en un Far West.
Donc, il ne faut pas forcément s'inquiéter de cette banalisation, ou du moins de cet engouement pour les armes. C'est ça votre constat ?
Ce à quoi il faut s'inquiéter, c'est le développement de cette guerre civile moléculaire. Et malheureusement, cet été, et récemment, les arrestations en Allemagne et en France le prouvent, on avance gentiment dans cette direction. J'ai pas envie de dire gentiment, c'est pas le bon terme, mais lentement, mais sûrement, dans cette situation-là. Et tout le flanc sud de la Méditerranée, qui est devenu complètement chaotique, va nourrir ce conflit. Alors, dans ces conditions-là, la question, c'est pas de se dire est-ce que c'est une bonne chose, mais c'est comment s'y préparer, comment y répondre. Et comment y répondre ? Eh bien, il faut diffuser le port d'armes dans la société. Il faut diffuser le port d'armes auprès des citoyens. Et là, on nous oppose sans cesse l'image des États-Unis, qui est totalement anachronique par rapport à la situation européenne. Mais il faut aussi penser à une comparaison toute simple. Vous avez un incendie qui démarre. Si vous prenez les bonnes mesure, si vous avez une couverture anti-feu, un tout petit extincteur à votre portée, vous allez régler la chose en quelques minutes. Si vous vous contentez d'appeler les pompiers qui, malgré leur professionnalisme, vont arriver avec un délai de plusieurs minutes, votre maison risque de brûler.
Bon, les États-Unis, c'est quand même une fusillade en moyenne par jour, c'est pas rien. Pourquoi est-ce que vous dites que c'est une situation ou un exemple anachronique par rapport à la situation européenne ?
Parce que même si la société américaine fait partie de ce qu'on appelle la civilisation occidentale, elle est totalement différente de la nôtre. C'est une société dans laquelle, je dirais, le crime joue un rôle, c'est ce qu'on appelle le complexe du loup-garou, joue un rôle de rassemblement pour le reste de la population. On voit qu'on a le phénomène des tueurs en série qui est beaucoup plus développé que ce qu'on connaît en Europe. On a une police qui, face à une population systématiquement en armes, tire aussi de manière tout à fait régulière, hein, même sur des gens désarmés. On a un État qui n'a pas du tout l'encadrement social qu'on retrouve ici en Europe. Donc c'est une société qui fonctionne totalement différemment. Il y a des exemples en Europe qui sont beaucoup plus intéressants et qui malheureusement ne sont pas souvent cités. On a la République tchèque qui est un pays tout à fait civil, tout à fait développé, dans lequel 4-5% de la population dispose légalement d'un permis de port d'armes. Je ne dis pas d'achat, bien de port d'armes. C'est-à-dire qu'ils peuvent, 4 à 5% de la population peut se rendre au travail, faire ses courses avec une arme sur lui. Et chaque année, ces ports d'armes sont révisés. Et chaque année, 70 personnes soit y renoncent, soit alors ne se le voient pas renouveler pour des raisons d'analyse où on dit non, là, ça ne se justifie plus. Mais c'est 4 à 5% de la population. Et ça ne crée pas une situation de chaos social. La République tchèque est un pays tout à fait pacifique et civil.
Vous n'êtes pas d'accord avec ceux qui disent qu'en Suisse, pour revenir à la Suisse, que la Suisse a une législation trop libérale en la matière ?
Non, pas du tout. Et d'ailleurs, les dernières dispositions qui ont été arrêtées par le Parlement, je parle en particulier à l'article 113 de la loi militaire, font penser plutôt à un État totalitaire. Quand on voit que on parle à propos de la jeune Suisse qui fait service militaire d'un degré possible de dangerosité, qu'on appelle les tiers à la délation pour tout signal qui pourrait s'avérer suspect, explicitement inscrit ainsi dans la loi, je crois qu'on a une disposition là qui, je dirais, ferait pâlir d'envie le plus infâme des dictateurs.
Votre discours, c'est celui d'un appel à la vigilance ou à la défense citoyenne. On entendait à 7h15 le représentant de la Fédération des fonctionnaires de police. Ce qu'il disait, c'est que les Suisses ne penseraient pas à s'armer s'ils étaient assez protégés par la police. Vous n'êtes pas convaincu, Bernard Wicht ?
Alors, je comprends qu'un représentant syndical puisse tenir ce discours-là. C'est quand même son travail. D'autre part, il faut savoir qu'en 2000, il y a eu ce fameux rapport OUSIS qui a été publié en commun par les cantons et la Confédération et qui constatait qu'il manquait environ 2 à 3 000 fonctionnaires de police en Suisse, dans l'ensemble du pays, si on voulait avoir un niveau de sécurité suffisant. Donc ça, c'est de ce côté-là, sa remarque, elle est tout à fait justifiée. En revanche, de dire que les gens s'armeraient moins s'il y avait plus de policiers, donc j'aime pas trop, parce qu'en démocratie, je pense pas qu'on doive mettre un policier derrière chaque citoyen. Et puis d'autre part, c'est une remarque, je dirais, purement technique. L'arme a une dimension politique à laquelle on ne fait plus du tout référence, parce qu'on se braque sur l'émotionnel. Mais l'arme, c'est le symbole, c'est l'instrument par excellence du pouvoir. Or, dans une démocratie, l'instrument par excellence du pouvoir doit pas être détenu par un corps de professionnels, mais il appartient aux citoyens.
Bah, en même temps, Bernard Wicht, on a toujours entendu dire que le propre des États modernes, c'était justement qui détenait le monopole de l'exercice de la violence. Est-ce que finalement, un pays qui ne protège plus lui-même sa population, ou pas assez, ne renie pas un peu justement ce principe-là de l'État moderne ?
Vous avez raison. L'État moderne, malheureusement, dans sa conception, il ne comprend pas la notion de liberté. Et la notion de liberté, de démocratie, elle est née selon le principe « pas d'impôt sans représentation ». Et ceux qui ont pu faire valoir ce principe, ce sont d'une part les Anglais et d'autre part certaines populations des cités, des républiques urbaines d'Italie, du Nord, de Suisse, parce qu'elles étaient en armes. Donc, il faut voir que la citoyenneté, c'est pas un cadeau qui est tombé comme ça dans une société avec le contrat social de Rousseau. C'est une négociation permanente. C'est une négociation permanente sur la liberté. La liberté n'est pas un état de fait. C'est un combat. C'est un combat et il faut l'accepter. Or, si on se braque uniquement sur la sécurité, alors évidemment, on abandonne cette liberté. Mais même les philosophes comme Hobbes, qui est le penseur de l'État moderne et qui dit l'individu, dans son principe du Léviathan, l'individu abdique sa liberté en contrepartie de la sécurité. Le principe qu'on nous cite toujours, Hobbes le précise clairement dans la deuxième partie de son ouvrage, qu'on cite nettement moins malheureusement, en disant « oui, mais lorsque l'État ne garantit plus cette liberté, l'individu retrouve son droit à la légitime défense parce que c'est un droit naturel auquel il ne peut renoncer par aucune convention ». Et donc cette dimension politique, elle est fondamentale, elle doit être évoquée avant de passer à des constats techniques ou alors, ce qu'on a vu depuis plusieurs années, à des réactions purement émotionnelles.
Vous avez dit, Bernard Wicht, pas question de mettre un policier derrière chaque citoyen. À ce propos, restez avec nous car Esther Coco, Valérie Drou nous ont rejoint, elles ont lu la presse pour nous. La presse qui évoque notamment la campagne sur la nouvelle loi autour du renseignement, ce sera évidemment un objet sur lequel on se prononcera le 25 septembre prochain. C'est aussi, Esther, une dispute de définition.
Les opposants à cette nouvelle loi qui donne plus de pouvoir aux services de renseignement dénoncent une future surveillance de masse. Les partisans estiment que ce n'est pas vrai. Les opposants n'ont tout simplement pas lu le texte de la loi. Depuis deux semaines, dit le Tagesanzeiger ce matin, la campagne a tourné à la dispute autour des définitions. Si l'on dit oui à la surveillance des réseaux telle qu'inscrite dans la loi, est-ce que cela signifie aussi accepter une surveillance de masse sans justification préalable? Alors pour la présidente des Jeunes Socialistes, Mara Funicello, cette surveillance des réseaux permet de récolter des données à tout va. C'est un peu comme si on ouvrait nos lettres et qu'on les lisait sans que l'on s'en aperçoive. Guy Parmelin, pour sa part, le ministre de la Défense, a tenté de rassurer. Seules les informations qui sont pertinentes pour la politique de sécurité seront recherchées. Il ne s'agit pas d'une surveillance de masse. La PLR, Corinna Eichenberger, rassure aussi. De toute façon, les services de renseignement suisses n'ont pas les ressources pour surveiller tout le monde.
Est-ce qu'on s'achemine vers une surveillance de masse avec cette loi, Bernard Wicht ?
Alors, après ce que je vous ai dit sur le citoyen et la liberté, vous vous étonnerez pas de savoir que je suis très très sceptique, voire opposé à une telle loi. Pour une première raison, c'est que d'abord, les bases légales actuelles sont suffisantes. Il faut pas oublier une chose que visiblement on ne cite jamais, c'est que dans chaque canton, il y a un service du contrôle de l'habitant qui est doté de bases légales, qui a un travail bien précis à faire et qui est tout à fait en mesure de distinguer si des individus ont des comportements dangereux. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à maintenant, les services de renseignement ne se sont jamais préoccupés de travailler avec les services du contrôle de l'habitant, à ma connaissance, et selon les renseignements que j'ai pu obtenir. Donc ça, c'est déjà un problème. On veut faire une loi alors que les bases légales existent déjà. La deuxième chose, c'est que dans une démocratie, confier de tels pouvoirs, c'est-à-dire une loi d'exception à un service secret, par définition, pour moi, c'est problématique. Et puis, troisièmement, dans cette chose-là, on ne se protège pas de la guerre avec une loi. On ne se protège pas de la guerre avec une loi. Mais avec des moyens. Or, en ce moment, on dépense péniblement 5 milliards qui sont souvent remis en cause pour la défense nationale, mais on dépense 11 milliards pour l'aide au développement. Je pense qu'il y a un certain déséquilibre et que c'est pas une loi qui va nous protéger de cette absence de moyens.
On vous sent viscéralement méfiant à l'égard de l'État. Au fond, c'est un discours presque libertarien que vous tenez.
Non, c'est un discours républicaniste, c'est-à-dire que la liberté, c'est le discours républicaniste est beaucoup plus ancien que le discours libertarien, c'est le discours de la Renaissance italienne où est citoyen celui qui peut, selon d'ailleurs le principe de la cité grecque, est citoyen celui qui peut participer à la prise de décision des affaires concernant la cité. Et pour éviter que cette liberté soit captée par toute forme de pouvoir oligarchique, autocratique, tyrannique, eh bien, le républicanisme de la Renaissance italienne dit, eh bien, les armes appartiennent aux citoyens. Et Machiavel, qu'on cite à tort et à travers, est un des grands tenants de cette pensée. Il a des formules tout à fait claires. Le roi de France a désarmé son peuple pour gouverner sans résistance. Ou bien alors, à la fin de l'art de la guerre, lorsqu'il nous dit « le riche désarmé est la récompense du soldat pauvre ». Donc voilà, ça c'est pas un discours libertarien, c'est un discours sur la cité, et sur la cité au sens de res publica.
C'est un discours républicaniste, c'est un discours aussi assez alarmiste quand même, Bernard Wicht, hein, lorsque vous parlez de cette guerre moléculaire qui est à nos portes. En même temps, voilà, il faut quand même reconnaître, la Suisse jusque-là a été épargnée par le terrorisme. Vous n'êtes pas rassuré pour autant ?
Non, malheureusement, enfin, j'espère que je me trompe, j'espère sincèrement me tromper, mais je suis pas rassuré, pour deux raisons. Parce que, d'une part, on a affaire à de nouvelles formes d'organisations militaires totalement différentes. Je pense à ces groupes armés tels que Daesh, ACMI, Al-Qaïda, Al-Nusra, qui sont des formes d'organisation militaire parfaitement adaptées à la mondialisation, c'est-à-dire qu'elles sont capables d'être transnationales, elles sont capables de mener une guerre ouverte et en même temps d'agir dans la clandestinité comme on le voit en Europe. Et plus en général elles perdent sur le terrain militaire, plus elles renforcent leur action terroriste et clandestine. En ce qui concerne la Suisse, on peut mettre, je dirais, un élément qui est, je ne vais pas dire rassurant, mais qu'il faudrait renforcer parce qu'il est sans doute une des clés de notre résistance à cette situation qui se dégrade, c'est que un des historiens militaires les plus compétents à l'heure actuelle, Martin van Krefeld, dit dans son dernier ouvrage que la plupart des sociétés modernes renoncent en fait à se défendre en confiant cette tâche à des soldats professionnels, à des sociétés privées, voire à des étrangers, hein, comme c'est le cas par exemple en Espagne où l'armée mais les contingents sont composés essentiellement de latino-américains et de ressortissants marocains. Et il a une phrase à la fin qui est assez intéressante en disant, voilà, il y a une exception, c'est la Suisse, un pays où le niveau de vie est très élevé, où le développement est sans doute un des plus élevés en Europe. Et malgré tout cela, les Suisses n'ont pas cédé à cette tentation-là. Ils refusent et ils continuent de vouloir prendre leur défense personnellement en main. Lui, il y voit une chance pour notre société. Moi, je la vois aussi dans ce sens-là, et je pense qu'il faut continuer de travailler dans cette direction. Maintenant, je ne suis pas à cause de ça prêt à dire que la Suisse sera épargnée ou que la Suisse ne risque rien, pas du tout.
Mais elle n'a ni les problèmes sociaux de ses voisins, ni la tradition coloniale qu'ont certains pays européens. Mais pour autant, vous dites pas d'exception suisse.
Alors,
en tout cas, en termes de menaces sécuritaires.
Écoutez, j'ai pas une boule de cristal. Je l'espère sincèrement. Mais je pense pas qu'on puisse tabler là-dessus. La menace est trop transnationale. Les flux de population sont devenus trop importants. Il y avait une carte dans un journal qui montrait au fond comment Daesh s'est constitué et elle parlait des autoroutes de l'insurrection. Et ces autoroutes, elles passent par justement les flux de population, les axes commerciaux, etc. Donc l'adversaire a effectué une mutation fondamentale et je ne crois pas qu'on a encore saisi tout l'envergure de cette mutation.
Et dans ce contexte justement de guerre en perpétuelle mutation, quelle place pour les armées classiques ? Elles ne servent en quelque sorte plus à rien, Bernard Wicht ?
Alors, elles ne servent pas plus à rien, mais elles doivent se réadapter de manière fondamentale, parce que on voit très bien que dans les pays les plus touchés, notamment la France et la Belgique, qui ont des armées professionnelles, ces armées sont dans les rues depuis longtemps, et malheureusement, ça n'a pas servi à grand chose. Donc, ça prouve bien que c'est pas l'élément de réponse fondamental, mais que l'élément de réponse, il est. Par rapport à une menace capillaire, l'élément de réponse est au niveau capillaire, donc au niveau du citoyen lui-même et de sa capacité de prendre sa défense en main. Et c'est une chance aussi, c'est une chance pour nos sociétés, parce que l'individu qui prend responsabilité de sa défense, il prend aussi responsabilité de son avenir. Je rappelle une dernière chose, et je ne vais pas vous bombarder de citations, mais Max Weber, le grand sociologue du XXe siècle, lorsqu'il se pose la question pourquoi le capitalisme naît en Europe au XIIe et XIIIe siècle et pas en Chine, alors que la Chine était beaucoup plus développée à cette période-là, un des premiers arguments qu'il met sur la table, c'est parce qu'en Europe, les populations étaient responsables elles-mêmes de leur défense.
Alors, une illustration de ces guerres moléculaires dont vous parlez, c'est peut-être justement la guerre en Syrie. Et la presse y revient justement, Valérie Droux, Russes et Américains qui ont conclu un accord à Genève vendredi passé, cherchent à établir un nouveau rapport de force.
Oui, réchauffer la guerre froide, titre même l'article. Grande analyse dans la Liberté qui reprend le français Libération ce matin. Une analyse en 5 points sur les rapports entre Moscou et Washington qui pouvaient sembler meilleurs après justement la trêve, l'accord entre les deux sur la trêve en Syrie. Pourtant, il reste de fortes divergences, lit-on, et parmi elles, la volonté de la Russie de contrecarrer le renforcement des troupes de l'OTAN en créant de nouvelles divisions militaires dans l'ouest du pays. La rhétorique guerrière aussi en intervenant en Syrie, dit l'article, Moscou a voulu défier l'hégémonie américaine et obliger les États-Unis à lui reconnaître le statut de grande puissance. Le changement d'attitude à Washington est aussi mis en évidence après le redémarrage des relations des deux grands voulu par le président américain en 2009. La Maison-Blanche veut maintenant accroître sa présence en Europe de l'Est pour la première fois depuis la fin de la guerre froide. Un analyste du centre Carnegie Moscou explique « La confrontation actuelle est asymétrique en faveur de l'Occident et donc très instable, imprévisible. »
Vous partagez cette analyse, Bernard Wicht ?
Non, pas vraiment. Non, pas vraiment, parce que je crois que les États-Unis, je dirais, se cherchent un adversaire. Se cherchent un adversaire pour conserver au fond le contrôle sur les pays de l'OTAN. On sait très bien que, à part eux, les pays de l'OTAN n'ont plus vraiment de moyens militaires. Les États-Unis font pression sur l'Allemagne pour qu'elle elle place des troupes en Pologne, etc. Et je vois beaucoup plus du côté américain la volonté de se créer un ennemi, de créer un épouvantail pour ressouder les liens que véritablement une renaissance de la guerre froide. Je l'ai dit il y a quelques temps déjà, je crois que le seul vrai enjeu, c'est les pays baltes. Pas maintenant, pas l'année prochaine, mais à l'horizon d'une décennie environ. À l'horizon d'une décennie, si les États-Unis deviennent isolationnistes, comme ça pourrait peut-être être le cas avec Donald Trump, et si l'OTAN continue, je dirais, de ne plus avoir de moyens militaires, alors là, on peut envisager qu'il y ait tentative de la Russie de récupérer les pays baltes au sein du territoire.
On vous remercie, Bernard Wicht, d'avoir été avec nous ce matin en duplex de notre studio de Fribourg. Vous êtes expert, on le rappelle, en stratégie, privé docent à l'Université de Lausanne. On rappelle aussi le titre de votre livre paru chez Favre en 2014, Europe Mad Max demain, avec un point d'interrogation tout de même, Retour à la défense citoyenne. Bonne journée à vous.
Merci.